France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue face au destin des femmes. Femmes d'aujourd'hui ou du XVIIIe siècle, héroïnes d'un futur dystopique, épouses, mères ou désirant ne pas l'être. Les femmes sont au cœur de l'univers littéraire de mes deux invitées du jour, deux autrices. Adélaïde Bon qui publie cette fin de semaine le 22 août, Puisque l'eau monte aux éditions Le Soir Venu. Roman mettant en scène une jeune femme au soir d'un avortement qui la brise physiquement et émotionnellement. La grossesse, la maternité, mais aussi la violence des hommes hantent les femmes de sa famille depuis plusieurs générations. Et ma deuxième invitée, Julia Mali, est l'autrice célébrée de La Louisiane, parue en janvier 2024 aux éditions Stock, grande saga de ces femmes qui ont quitté la Salpêtrière et embarqué dans les années 1720 pour la Louisiane afin d'y épouser des colons en mal de descendance. C'est une grande histoire d'aventure, de liberté, de sororité, de douleur et d'amour qui trouve un écho dans le roman « Moi qui n'ai pas connu les hommes » de Jacqueline Hartmann, paru également chez Stock au printemps cette année et dont Julia Mali a signé la préface. Il met en scène 40 femmes tenues en cage dans une mystérieuse dictature et questionne le rapport des femmes à leurs semblables, à leur univers et à leur corps. En seconde partie d'émission, nous nous intéresserons à la 37e édition des États généraux du film documentaire à Lussas, en Ardèche, en compagnie de leur directeur artistique et de la réalisatrice Safia Benaïm. Bonjour Julia Mali.
Bonjour.
Bonjour Adélaïde Bon.
Bonjour.
Avant d'entendre une lecture de vos romans respectifs, on va commencer par retracer vos deux parcours. Julia Mali, vous avez publié votre premier roman, La fiancée de Tocqueville, à l'âge de 15 ans. Alors là, déjà, j'ai envie de m'arrêter tout de suite pour vous laisser la parole. Comment est-ce qu'on écrit à 15 ans, à l'âge où on était encore pour certains et certaines très heureux de réussir nos Scooby-Doo, un roman historique, et qu'est-ce qui vous a poussé vers l'écriture si tôt?
Je crois que c'était vraiment la peur d'oublier. J'ai toujours tenu des journaux intimes. Et j'avais un peu cette idée sotte. Je me disais que si seulement je pouvais écrire tout ce qui se passait, ça allait être une façon pour moi de sauver ces événements de l'oubli. Et un jour, vers 12-13 ans, j'ai relu un de ces journaux intimes et puis je me suis rendu compte que les aventures que je lisais, enfin en tout cas cette page, ne m'évoquaient absolument aucun souvenir et que ce jeu m'était étranger. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant se lancer dans l'écriture de fiction. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire ce premier roman.
Et non seulement vous allez vers la fiction, mais vous allez en plus regarder dans le rétroviseur et vous documenter sur des périodes, en l'occurrence sur une période qui n'est pas du tout le présent de la Julia Mali qui vit à cette époque.
Oui, mais c'était une période assez folle. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables qui m'ont permis de retravailler ce livre. Et ça, cette idée de la réécriture, ça a vraiment été une très belle leçon d'écriture. Et en effet, ça a été aussi l'opportunité de un peu de réinventer une amitié que j'étais en train de vivre à l'époque et de la réinventer au 19e siècle.
Vous vous êtes inspirée de votre propre vie pour la placer dans un écrin à la fois fictionnel et documenté, puisque c'est un roman historique.
C'est ça.
Adélaïde Bon, vous êtes comédienne pour le théâtre, la télévision. Vous avez fondé en 2019 la compagnie Une Chambre à Soi avec Ariane Dionysopoulos et Hélène Franchissi. Et en 2018, vous avez publié un premier livre, alors non pas un roman, mais un récit, La petite fille sur la banquise, qui raconte ce qui vous est arrivé à 9 ans. Vous êtes victime d'un viol par un violeur en série qui sera arrêté 25 ans après les faits. Et vous racontez, Adélaïde Bon, la souffrance, la solitude, le combat, l'enquête et puis la reconstruction. Est-ce que l'écriture s'est présentée à vous comme une façon de vous reconstruire ?
Non. J'ai toujours voulu écrire. J'écrivais avant mes 9 ans. À 9 ans, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Il fallait survivre et ça prend vraiment beaucoup de temps. Je me suis remise à l'écriture par l'écriture... un peu l'écriture, je dirais, de vomi, c'est-à-dire enfin l'écriture de soi dans les carnets qu'on peut montrer à personne, un endroit d'écriture qui est ce qu'on jette de soi parce qu'on a besoin de le mettre à distance, mais en gardant ce désir très profond d'être écrivaine qui était très très ancien et qui a donc été empêché pendant des années et des années, jusqu'à ce que je comprenne que pour parvenir à écrire, parce que j'avais écrit plein de bouts de romans que j'abandonnais ou que je perdais, etc., il fallait que je commence par raconter cette histoire-là. Mais ça n'a pas été un roman, ça n'a pas été un récit qui a de résilience en soi, la résilience, la réparation, enfin j'aime pas trop le mot de résilience d'ailleurs, mais je l'ai faite par des années de thérapie, ça a plutôt été une façon d'interroger le langage, de comment je m'étais enfermée dans le langage, comment le viol m'avait enfermée dans le langage, et d'ouvrir cette prison-là par l'écriture. Et ça m'a permis de réouvrir l'écriture pour moi.
Est-ce qu'il y avait, une volonté de reconquérir aussi l'écriture ? Vous écriviez avant d'avoir 9 ans, ce viol vous prive de cet imaginaire et le reprendre, écrire est une façon aussi de retrouver ce que vous aviez perdu à ce moment-là.
Oui, complètement. Je crois que l'écriture, c'est un acte extraordinairement subversif et politique et qui permet de s'émanciper des cadres dans lesquels on grandit et des violences qu'on a subies. C'est aussi d'ailleurs le sujet de mon deuxième livre.
Et puis il y a la suite, pour vous deux, continuez d'écrire. Julia Mali, vous avez publié 2 autres romans avant La Louisiane, Témoé et Les fantômes de Christopher. Vous étudiez aussi notamment l'écriture créative. Vous devenez enseignante à l'Université de l'Oregon, à Sciences Po Paris. Et l'histoire de La Louisiane est assez dingue en fait. Non seulement ce sont des années de recherche, mais c'est aussi un roman que vous écrivez d'abord en anglais, alors que vous êtes aux États-Unis, en tout cas en grande partie, et puis que vous traduisez vous-même de l'anglais vers le français. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette aventure incroyable de la Louisiane ?
Ça a vraiment été une épopée transatlantique. J'ai travaillé pendant 8 ans sur ce roman, donc aussi bien en faisant des recherches en France qu'aux États-Unis. Et c'était vraiment passionnant d'aussi bien interviewer des descendants, être en contact avec des personnes de communautés autochtones aux États-Unis, de monter à bord du BLM avant les Jeux Olympiques pour voir un peu ce que ça fait que d'être sur un trois-mâts. Voilà, toutes ces choses-là, ça a vraiment nourri le roman. Et puis après ça, en mettant le nez dans les archives et en regardant de plus près la liste de ces 90 femmes qui ont été sélectionnées pour arracher à la salpêtrière pour être envoyées en Louisiane où elles épouseraient ces hommes qu'elles ne connaissaient pas encore.
Et certaines se portent même volontaires pour partir. Adélaïde Bon, comment est venue l'idée de ce deuxième livre et premier roman, puisque L'eau monte, qui est absolument saisissant, c'est un roman qui est superbement écrit, c'est le cas aussi pour La Louisiane et pour vos textes, Julia Mali. Il met en scène Sybille, qui est une jeune femme à qui tout semble sourire, elle a un boulot stimulant, elle a un petit ami avec qui elle s'entend très bien, qui réussit lui aussi d'ailleurs, qui lance des start-up, qui est tout content de sa carrière, elle a plein de projets, mais au début du livre, elle choisit de ne pas garder un enfant. Et on va comprendre pourquoi, et plonger dans son histoire et puis celle des femmes de sa famille. Comment est venu ce sujet, cette envie d'écrire cette fiction-là, Adélaïde Bon ?
D'abord, j'avais ce motif de cette femme qui marche dans Paris. Et donc, j'écrivais des pages et des pages sur cette femme qui marchait dans Paris, dont je sentais qu'elle était à un endroit de renversement, de vertige, de chute. Et ça a mis du temps par l'écriture de saisir exactement qu'est-ce qui se passait pour elle. J'étais à ce moment-là dans ma vie dans beaucoup de questionnements autour de la pensée écoféministe, d'essayer de comprendre comment nos assujettissements en tant que femmes reflètent les assujettissements du monde vivant, etc. Donc toutes ces pensées ont irrigué ce motif qui petit à petit, en grandissant au fur et à mesure des versions, est devenu l'histoire de ce corps, de cette femme qui se croit, qui pense avoir tout réussi, mais qui vit en réalité vraiment à côté de son corps. Il y a un événement qui est situé un petit peu au début, en amont du livre, avant que le livre commence, qui va la briser et qui va l'amener à prendre la décision d'interrompre une grossesse. Et cet événement est aussi l'IVG et tout d'un coup comment le corps fait irruption dans sa vie, les sensations, les ressentis, les rêves, tout ce qu'elle avait construit va partir à la dérive et c'est l'histoire de cette dérive voilà, que j'avais senti dans ce premier motif, mais qui a mis du temps à se déployer.
On va poursuivre la discussion autour de ces deux fictions, mais d'abord nous allons écouter la langue de vos textes avec deux lectures, l'une à la suite de l'autre. On commence chronologiquement avec la Louisiane et ses femmes du XVIIIe siècle, lues par Nina Gandara.
En haut de la page sont indiqués l'âge de l'accusé au moment de son arrestation, les noms de ses parents, la date de son incarcération, 12 janvier 1720, la personne ayant demandé la lettre de cachet. Et tout en bas, écrit si petit que Marguerite peine à déchiffrer les lettres tortueuses, avorteuses. Elle sait ce qu'elle devrait faire, convoquer la sœur officière de la grande force, lui ordonner de ramener Menu dans sa cellule. Dans l'ouvroir le plus proche, les filles entonnent les litanies de la Sainte Vierge. Marguerite déplie la lettre de sa sœur. Lucie exagère tout. À 12 ans, elle avait crié à l'empoisonnement le jour où une servante avait eu le malheur de lui servir une chopine de lait tournée. À 71 ans, elle est capable de faire passer pour une débauchée, pour une meurtrière. Dans sa lettre, Lucie profère de pires accusations. Elle a appris que Manu est sorti de prison et demande qu'elle soit renvoyée à l'isolement sur le champ. Les paragraphes sont ponctués de questions rhétoriques et d'exclamations typiques de son style. Marguerite s'attarde sur la dernière phrase. « Ayez pitié de ces enfants dont les mères savent l'art de ces meurtres barbares. » Mais Marguerite n'éprouve aucune pitié. Elle est furieuse et déçue. Furieuse contre Lucie, qui ne peut jamais s'empêcher d'intervenir, déçue envers Geneviève, dont les crimes rendent le pardon si difficile, pour qui la Louisiane demeure le seul espoir de sortir de prison. Elle revoit le regard déterminé de la détenue, accroupie dans sa cellule.
Merci beaucoup Nina Gandara pour cette lecture de la Louisiane de Julia Mali. Et on écoute maintenant un extrait du livre d'Adélaïde Bon, « Puisque l'eau monte », lu par Zoé Coupé.
Je ne lui ai rien dit à Maxime, pas un mot. Rien de l'émoticône souriante accompagnée de la mention « Vous semblez avoir du retard » qu'a notifié l'application de suivi des menstruations un soir. Rien du test de grossesse acheté 3 jours plus tard à la pharmacie. Pas la pharmacie habituelle, non. Celle qui demande un léger détour. Rien du réveil à l'aube, l'esprit alerte, ni de la barre bleutée apparue où elle n'aurait pas dû. Rien de la conviction qui m'a étreinte alors. Rien du rendez-vous chez un médecin généraliste inconnu, disposant d'un créneau à midi le jour même et d'un cabinet à proximité de mon bureau. Ni de cet homme ventripotent au regard réprobateur qui m'a demandé « Le père est au courant ?» Rien de son avertissement « Mademoiselle, avorter est un traumatisme qui vous marquera à vie. Vous devriez y réfléchir à 2 fois. Je vous prescris une prise de sang pour le dosage bêta-HCG afin de confirmer que vous êtes enceinte. Mais pour les abortifs, vous irez ailleurs. Moi, je ne fais pas. » Il avait noté une adresse sur un bout de papier et m'avait congédié. Rien du centre de santé au mur pistache sale de la fille aux ongles dorés qui était là pour la visite de suivi et a posé la main sur mon épaule, en partant. Rien de cet autre médecin pressé qui m'a récité les risques encourus comme on explique à des touristes importants le fonctionnement d'une borne à ticket de métro. Rien de ces préconisations, pas de tampons, pas de bain, pas de pénétration vaginale pendant 15 jours. Ne revenez nous voir qu'en cas d'hémorragie. Rien de la journée passée à attendre, pliée en deux que ça sorte, que ça vienne, qu'on en finisse. Rien de rien. Je ne lui ai rien dit, à Maxime. Rien. Je n'avais rien à lui dire. Ça ne le concernait pas. Ça n'était rien, un embarras. Quelque chose entre mon corps et moi. Rien non plus de ce qui nous était arrivé fin août au Sainte-Marie de la Mer.
Merci beaucoup Zoé Coupé pour cette lecture d'un extrait du livre d'Adélaïde Bon, Puisque l'eau monte, qui paraît le 22 août. Ce qui est assez sidérant quand on plonge dans ces deux lectures et notamment quand on rapproche ces deux extraits l'un de l'autre, c'est de voir qu'entre le 18e siècle et le 21e siècle, eh bien le corps des femmes est soumis, reste soumis aux jugements, aux actions d'autres personnes, que ce soit une mère supérieure dans un couvent qui va condamner années, comme l'ensemble de la société, une « faiseuse d'anges », entre guillemets, qui est le nom qu'on donne aux femmes qui avortent ou aident d'autres femmes à avorter, ou au XXIe siècle, une jeune femme qui décide d'avoir recours à l'avortement et qui se retrouve face à un médecin qui décide que non, il ne lui donnera pas, lui, la pilule abortive, etc. Julia Mali, dans votre livre, il y a notamment le personnage de Geneviève qui est accusée d'avoir eu recours à l'avortement. Comment est-ce que vous l'avez construite? Je sais que vous vous êtes beaucoup documentée sur la grossesse à cette période-là. Est-ce que c'était le drame d'être enceinte, en même temps le grand désir d'être enceinte? On voit à quel point ça tiraillait, tenaillait les femmes.
Oui, tout à fait. Et puis, c'était aussi... Dans le cas de ces femmes-là, c'était vraiment... c'était leur mission, en fait. Elles étaient envoyées en Louisiane pour faire des enfants. Donc, ces grossesses-là, elles étaient attendues, mais elles étaient aussi, bien entendu, instrumentalisées par l'État français qui envoyait ces femmes en Louisiane dans ce but-là bien précis. Moi, je me suis intéressée dans ce roman à l'absence de grossesse, à une de ces jeunes femmes qui est envoyée là-bas et qui, elle, se retrouve dans l'incapacité, en fait, de pouvoir donner naissance à un enfant. Et la crise existentielle que ça provoque avant, bien entendu, qu'elle ne se rende compte qu'il s'agit d'une libération, parce que être enceinte, c'est aussi la terreur de mourir en couche à cette époque-là. Mais ce qu'on voit très clairement à travers les siècles, c'est cette instrumentalisation du corps des femmes, ces violences-là. Et là, moi, quand je suis retournée en Louisiane, de se rendre compte qu'on est dans un état où il est interdit d'avorter. La toute première fois que j'y avais été, c'était pour faire des recherches pour ce roman. C'était après la première élection de Trump et les plannings familiaux étaient déjà recevaient très peu de financement. Donc on est encore une fois dans un endroit où on s'en prend au corps des femmes et à leurs droits.
Oui, ça revient en fait. On se retrouve de nouveau dans un monde où il devient quasiment dramatique, terrible, terrifiant pour une femme de tomber enceinte alors qu'elle ne souhaite pas, ou que c'est pas le moment, ou que c'est pas les bonnes, ce sont pas les bonnes conditions. Cette terreur absolue qui, outre celle d'accoucher, de mourir en couche, transperce aussi les jeunes femmes qui ne sont pas mariées et sur qui tomberait l'infamie au moment où elles seraient enceintes d'un homme sans être mariée et sans être appelée à procréer.
Tout à fait. Je pense que Geneviève aujourd'hui jouerait le même rôle en Louisiane que le rôle qu'elle a pu jouer, que ces femmes-là, que certaines de ces femmes-là ont pu jouer en Louisiane au début du XVIIIe siècle.
Adélaïde Bon, vous nous disiez que vous étiez d'abord inspirée par, que l'une des premières idées, c'est cette femme qui marche dans Paris. Et c'est vrai que votre héroïne marche beaucoup pour apprivoiser ses pensées, pour les ordonner, pour aussi échapper à son corps, donner une forme à tout ce qu'elle vit. Et elle marche beaucoup en compagnie aussi d'un sac de congélation dans lequel elle a mis cet embryon ou ce qu'elle a perdu après son avortement. Qu'est-ce qui symbolise ce petit sac, ce petit sachet qui renferme à la fois un adieu, quelque chose qui n'existera pas, et puis en même temps un soulagement, une forme de destin accompli pour votre héroïne qui va, pendant tout le roman, se demander ce qu'elle doit en faire.
Cette amas, c'est comme ça qu'elle l'appelle, l'amas, c'est l'obscur, c'est ce qu'elle ne parvient pas à mettre en mots, ce qu'elle ne parvient pas à rendre intelligible. C'est ce gouffre qui s'ouvre en elle après cet événement liminaire, un peu avant le début du roman, de violence intime avec son compagnon, qui s'agrandit encore au moment de l'avortement et dans lequel elle se met à apercevoir des créatures anciennes, des secrets de famille, et cet amas devient le signe de ce mystère-là, une nuit qu'elle portait en elle et qui tout d'un coup qu'elle voit, qui prend corps à travers cet amas, et dont elle ne sait que faire. Et tout au long du livre, elle va chercher que faire de ça. Voilà, et ça va être tout son trajet finalement de parvenir à poser des mots sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'il contient pour elle. Qu'est-ce que c'est que ces émotions, que ces terreurs, ces rêves qui se sont réveillés en elle au moment de la fissure.
Que faire de soi-même dans un monde quand on est une femme? Comment s'emparer de son destin personnel? Comment choisir sa vie? C'est aussi l'une des questions que s'est posée l'autrice Jacqueline Hartmann, qui a écrit « Moi qui n'ai pas connu les hommes », dont vous avez écrit la préface, Julia Mali, qui expliquait le sentiment d'avoir un destin tout tracé. C'était en 1996, juste après avoir reçu le prix Médicis pour son roman « Orlando ».
Je suis quand même encore d'une époque où c'était pas tellement évident d'être une femme, de se forger, de se faire un destin personnel, de mener une vie propre. Pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus quotidien et banal. Je suis quand même encore d'une époque où on me disait « tu te marieras et tu auras des enfants et c'est à ça que tu es destinée ». Ça me rendait très nerveuse. Quand j'étais jeune, que j'étais au Maroc, il y avait toute une espèce de mythification de la mère. Et en même temps, on nous balançait Jeanne d'Arc à toutes les sauces. Alors je me souviens que j'ai eu un mauvais point de conduite en classe parce que j'ai dit « Mais madame, vous pouvez pas à la fois parler de la maternité et de la splendeur, de la beauté de la maternité et de l'autre main dire qu'il faut rester vierge comme Jeanne d'Arc parce que si on fait tout comme Jeanne d'Arc, il n'y aura plus personne. » Mais pour moi, la maternité n'est absolument pas une espèce de machin mythique. La maternité, c'est quand on est une femme et qu'on a des enfants et on faut voir si on fait ça convenablement ou si on ne le fait pas bien. C'est une fonction très difficile à remplir. Et moi, j'ai essayé de le faire aussi bien que j'ai pu, mais il faudrait plutôt demander à mes filles. Je suis pas bien sûr qu'elles trouvent que j'y suis arrivée correctement. C'est des filles, quoi. Hein. Les filles sont jamais contentes. Je ne l'étais pas non plus.
Les filles sont jamais contentes. Bon, pour les filles d'aujourd'hui, en tout cas, dit Jacqueline Hartmann, c'est différent. Pour les filles d'aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle, Julia Mali?
Dans une certaine mesure, oui, mais je pense que la lutte continue, en fait, que ces droits sont, que les droits des femmes sont en permanence remis en question, et que donc cette bataille-là se poursuit. Mais bien sûr, il y a eu des changements sociétaux radicaux, mais c'est intéressant d'écouter Jacqueline Hartmann parler de maternité, parler de ce que ça veut dire que d'être femme. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer une de ses filles pour écrire cette préface, qui elle me disait justement, on a grandi au rythme d'injonctions résolument féministes, mais elle me disait aussi, je ne pense pas que ma mère se serait proclamée féministe. Mais dans ce roman-là, on sent bien que tous ces thèmes de la sororité, d'une communauté de femmes, de cette survie entre femmes, lui tiennent extrêmement à cœur.
Adélaïde, bon, pour les filles d'aujourd'hui, c'est différent. Évidemment, il y a eu énormément d'avancées que Julia Mali évoquait. Hein. Bien sûr que les choses ont quand même changé, que la loi a évolué, que le regard a évolué sur les femmes et sur leur corps. Mais, et on le voit notamment beaucoup dans votre livre, il reste et demeure une forme de transmission de quelque chose de l'ordre de presque la malédiction qui vient pas de l'intérieur des femmes, hein, mais qui vient de l'extérieur, de ce qu'on leur fait, notamment. Adélaïde, bon.
Oui, il y a dans mon livre l'histoire de cette lignée de femmes, Sibylle, sa mère, sa grand-mère, et comment chacune ont été exposées à la violence, la violence masculine, ou alors les conséquences qu'elle a eues sur elle. Et je crois fondamentalement que depuis les années 70, on est à un nouveau moment de libération. De monde de libération, de la compréhension intime de ce que c'est que la violence faite au corps. Quelles répercussions ça a, quelles conséquences ça a. Chaque pas des engagements des femmes vers l'émancipation amène une nouvelle compréhension, amène des lunettes plus précises et si la situation de Sibylle n'est pas du tout la même que celle de sa grand-mère, elle n'en subit pas moins des violences. Son compagnon lui fait subir même une double violence, une violence doublée d'une négation de la violence qu'il lui fait subir, qu'il ne se rend même pas compte de la violence qu'il lui fait subir. Et cette chose-là, je crois, est éminemment contemporaine. Quand on arrive enfin à faire parler en littérature, dans le cinéma, enfin un peu partout, les femmes parlent l'expérience de leur corps. Et je crois qu'on en est à cet endroit-là aujourd'hui. Camille Froide-Vaumétry le dit très bien, je trouve. Et moi, j'ai vraiment essayé dans mon livre de m'attacher à ce qu'une femme, donc ça se passe en 2019, sur 3 mois, c'est vraiment un instantané d'un destin de femme. Comment cet événement extraordinairement banal de la violence intime dans un couple, parce que très très répandu, l'impact, et quels sont les mots qu'elle peut en dire, comment elle arrive à le transmettre en langage. C'est à la première personne, et c'est vraiment ce travail-là de la mise à jour de cette obscurité en 2019. Quels sont les mots dont on dispose pour dire ça, pour comprendre ça, pour ressentir ça. Donc oui, ça a changé pour les femmes, et ça a changé dans le langage. Je pense que la grand-mère ne pouvait pas penser les choses comme sa petite-fille les pense. Et j'espère que, si j'étais derrière petite-fille, sait-on jamais, qu'elles pourront penser le monde encore différemment et de manière plus pointue, plus exigeante et précise que moi.
Julia Mali, il y a aussi plusieurs générations de femmes dans votre roman. Adélaïde Bon, expliquez bien la façon dont les choses évoluent, les mots se déploient parfois par simplement des gestes ou des choses dont on hérite. Il y a de l'entraide entre les femmes de la Louisiane. Il y a ces mères supérieures, ces religieuses qui choisissent avec beaucoup de sensibilité finalement, même si elles sont dans un rôle assez ingrat, mais qui choisissent celles qui vont partir, pour quelles raisons elles vont les faire partir. Ensuite, ces femmes sont ensemble sur un bateau, dans un périple. Certaines sont amoureuses. Elles ont des histoires d'amour, d'autres sont jalouses ou ne cèdent pas forcément dans des moments où elles pourraient se tendre la main. Et puis ensuite, il y a des relations avec les autochtones sur place, avec ces populations qu'elles rencontrent. Elles s'échangent des savoirs et puis elles font face à la violence des hommes. Comment vous avez tissé ces liens, Julia Mali?
Eh bien, j'ai vraiment eu envie de m'intéresser à la diversité des liens qui ont pu exister entre ces femmes et de pas non plus idéaliser de pas idéaliser, disons, les liens entre ces passagères. C'est pas parce que elles partagent le même destin qu'elles vont toutes devenir amies. Non, au contraire, en plus elles arrivent dans un territoire extrêmement hostile où le but c'est de survivre, et donc quand on tente de survivre, on est prêt à tous les coups bas. Mais c'est un livre dans lequel donc coexistent aussi bien ces trahisons-là que de grandes histoires d'amitié, des histoires d'amour. Et moi, ce qui m'a frappé en écrivant ce roman-là, et là je rejoins tout à fait ce que disait Adélaïde tout à l'heure sur le corps des femmes, c'est que justement quand on écrit sur les femmes, d'entrée de jeu on écrit sur le corps, en fait c'est une écriture du corps, puisque il y a quelque chose d'extrêmement cyclique, enfin on est tout de suite rattaché à ça, et puis c'est aussi une écriture de l'espace domestique, d'un espace clos, d'aller s'interroger sur qu'est-ce qui se passe derrière ces portes fermées, et d'inventer là de nouveaux espaces de l'intime, et de voir ce qui s'est joué là où l'histoire racontée par les hommes s'est très peu intéressée à ces espaces-là.
J'étais très intéressée, hein, Julia Mali, et il nous reste que quelques secondes pour terminer, mais par la façon dont ces femmes s'emparent aussi de l'environnement où elles arrivent, environnement hostile. Et chez vous, Adélaïde Bon, elle retourne, votre héroïne, vers le lieu de son enfance, vers des marais, vers aussi tout un lieu symbolique, des animaux comme le hibou qui apparaissent comme presque des messagers. Comment vous avez tracé ce lien entre la femme et son environnement ?
J'avais envie qu'au fur et à mesure du livre, elle passe de ce corps contraint, éteint, le corps silencieux, objectivé, à ce corps vibrant en relation avec le vivant autour d'elle. Et plus le livre avance, plus la nature autour d'elle devient présente, plus elle est elle-même sensible aux signes, au langage. Ça devient un peu animiste à la fin. J'avais vraiment envie qu'il y ait un écho, un miroir, une vibration commune de cette vie qui palpite en elle à la fin du livre, mais qui palpite aussi tout autour d'elle.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui pour évoquer Puisque l'eau monte, votre roman de rentrée littéraire, Adélaïde Bon, aux éditions Le Soir Venu, et La Louisiane qui s'est classée dans les best-sellers 2024, qui est disponible maintenant en poche, signé Julia Mali, et Il faut lire Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartmann chez Stock. On se retrouve dans un instant pour évoquer la 37e édition des États généraux du film documentaire. Et me voici pour cette deuxième partie des Midis de Culture en compagnie de Safia Benaïm, réalisatrice du film Libertalia, présenté dans la section Expérience du regard au Festival des États généraux du film documentaire à Lussas, et Christophe Postic, directeur artistique de cette manifestation, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Safia Benaïm.
Bonjour.
Bonjour Christophe Postic.
Bonjour.
Christophe Postic, est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival et nous raconter en quelques mots son histoire, ses ambitions et aussi ses particularités ?
Alors c'est un festival qui existe depuis 1989, donc c'est la 37e édition. Et à l'origine, c'est un collectif qui s'intitulait La Bande à Lumière, qui s'est réuni pour faire entendre au Centre National du Cinéma, qui mettait en œuvre une nouvelle aide à la création cinématographique, que le documentaire devait aussi acquérir cette possibilité de postuler à ce fonds, ce qui n'était pas le cas donc au départ. Et donc des cinéastes, des producteurs, productrices et cinéastes se sont réunis pour mettre en place une pression avec le CNC pour leur faire accéder à cette demande. Et à cette occasion, plusieurs manifestations vont être mises en place, dont les États généraux, mais c'est aussi à ce moment-là qu'est créé ce qui deviendra le film Marseille. Et l'idée de ce collectif dans la création de cette manifestation, c'est de se retrouver entre professionnels pour échanger, partager leur manière de fabriquer des films et leurs difficultés à les fabriquer, mais d'emblée d'inviter un large public à découvrir les films que ils viennent eux-mêmes de fabriquer, les producteurs, ces cinéastes. Donc d'emblée aussi, cette manifestation est non compétitive. C'est encore le cas aujourd'hui et je pense que c'est une particularité très importante qui s'accompagne d'une très large place qu'on souhaite accorder à la parole autour des films, après les films, à la fois avec les spectateurs et avec les fabricants des films et en premier lieu les cinéastes. Donc il y a une partie qui est, je dirais, plus proprement liée à une approche professionnelle. Donc il y a une série de rencontres professionnelles où on invite des diffuseurs, des distributeurs, des producteurs à venir nous parler de leur manière de fabriquer les films. Et puis il y a la partie programmation où là on construit souvent sur plusieurs jours des programmations. Alors certaines plutôt axées sur un cinéma de patrimoine et sur l'histoire du cinéma documentaire d'un pays, et puis d'autres très contemporaines, comme celle par exemple dans lequel le film de Safia est présenté, Expérience du regard. Programmation qui est portée par deux cinéastes, c'est aussi une des particularités de cette programmation, c'est-à-dire que les films sont choisis par des pairs, ce ne sont pas des programmatrices ou programmateurs, mais des personnes qui elles-mêmes ont l'expérience de la fabrication des films. Et c'est l'occasion de partager chaque fois avec l'ensemble des cinéastes présents un récit, une mise en scène, une écriture, une manière de partager dans un festival, et ça c'est notre, je pense, caractéristique importante, le temps partagé après les films, c'est-à-dire que on est en présence. Alors il y a aujourd'hui beaucoup de, j'entends souvent là les, par exemple les bénévoles que j'ai rencontrés ces deux derniers jours qui me disent que ils voient beaucoup de documentaires sur la plateforme Tunk, qui est spécialisée dans le cinéma documentaire, mais il y a une expérience qui est irremplaçable, c'est celle de voir des films ensemble. Et je pense que c'est ce que continue de proposer l'ensemble des festivals de cinéma en France. Et la dernière particularité importante de ce festival, c'est qu'il se déroule en milieu rural. Donc on est dans un village de l'Ardèche qui, dès l'origine du projet, a toujours soutenu cette manifestation. Et donc il y a une convivialité qui est vraiment immédiate quand on arrive dans un paysage d'Ardèche, dans ce petit village. Et les discussions se prolongent très très longtemps dans la soirée autour d'un verre. Et c'est aussi un peu un moment de intense où on vient reprendre, alors d'une certaine façon, contact avec une réalité qui est celle représentée par l'ensemble de ces films.
Alors, je suis avec Safia Benaïm, réalisatrice, hein, qui présente Libertalia dans la section Expérience du regard. Christophe Postic, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce film documentaire de Safia Benaïm?
Alors, il se trouve qu'on a déjà passé les précédents films de Safia. Le premier film qui s'appelait L'arrière-pays, et puis ensuite La fièvre. Et comme pour tout cinéaste, toute cinéaste, chaque film est l'occasion de construire un récit et de trouver une forme qui va être tout à fait singulière et unique par rapport à chaque film. Et Safia a beaucoup travaillé, s'intéresse vraiment à la mise en scène. Alors, parce que même une forme documentaire est mise en scène, donc il y a différentes formes d'écriture, mais ce qui nous intéresse particulièrement dans le cinéma de Safia, c'est cette tentative à chaque fois, à chaque film, d'essayer d'inventer une situation, de mettre les personnes qu'elle filme dans un lieu, un espace, une temporalité. Et dans Libertalia, une des choses très singulières, c'est qu'elle fait intervenir deux comédiens dans le film. Et donc, c'est comment des comédiens dans un film documentaire peuvent, à un moment donné, venir nourrir, bousculer le récit. Et la manière dont elle a imaginé travailler avec ces deux personnes, c'est ce qui a retenu notre attention. Parce que le récit autour de cette utopie libertaire des pirates est vraiment, à travers le carnaval des Gras à Douarnenez, est quelque chose d'extrêmement, je dirais, difficile à rendre compte. Alors ça pourrait être un film de cinéma direct très classique d'observation. Et là, Safia fait le choix d'aller ailleurs, de risquer autre chose dans une mise en scène, voilà, à travers la présence de deux comédiens.
Safia Benaïm, donc avec ce documentaire qui se passe à Douarnenez, hein, comme l'a dit Christophe Postic, notamment au moment des Gras, donc Mardi Gras, le carnaval, quelle histoire est-ce que vous aviez envie de raconter avec ces procédés que vous mettez en place, faire jouer des comédiens, comédiennes, être entre onirisme et réalité, entre fiction et documentation? Est-ce que vous pouvez nous dire Safia Benaïm?
Oui, bonjour, merci de me recevoir. Donc, je ne sais pas si au départ c'est vraiment une histoire que je voulais raconter. Le point de départ, c'est plutôt la façon dont j'ai rencontré les Gras et dont ce qui se déroule pendant ce carnaval en particulier, qui dure donc 5 jours et qui a la particularité d'être un festival encore très populaire, très spontané, et où les gens jouent un personnage et le performent à fond de manière très ludique. Ça peut aussi être inquiétant, mais donc la ville entière se métamorphose et devient une sorte de théâtre de transe à ciel ouvert, très drôle. Et c'est vraiment cette dimension qui m'a beaucoup marquée quand j'ai découvert en venant m'installer à Douarnenez. Et c'est venu résonner avec des questions qui me travaillent, qui m'obsèdent dans ma vie et de film en film, qui est la question de la façon dont on peut traverser des identités multiples, donc on peut être possédé par autre chose, que ce soit un animal, la mémoire, une mémoire qui n'est pas la sienne. Et là, voilà, ça, c'est venu percuter un petit peu ces obsessions. Et donc, j'ai vu aussi en même temps ma fille se plonger dans ce carnaval, inventer un personnage de pirate. Et j'ai fait le lien aussi avec toute la façon dont les enfants se projettent de manière très sérieuse dans leur imaginaire et croient à leurs histoires. Et c'est cette rencontre entre la question de l'imaginaire, que ce soit par les gens qui performent dans la rue, les douarnenistes, une enfant ou des personnes qui vont un personnage un peu étrange qui va venir comme ça aussi se fondre dans son personnage. Et au fur et à mesure, en fait, autour de cette question de la métamorphose, de devenir pendant un temps vraiment quelqu'un d'autre, de se faire un peu dépasser par son imaginaire, j'ai tressé un fil de récit. Voilà. Mais la première chose n'est pas un désir d'histoire.
Oui, j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages dialoguent entre eux et dont ils ont finalement tous un double ou un fantasme. Votre petite fille qui se rêve pirate et puis cette femme, une femme qui débarque un peu de nulle part, qui est en quête de spiritualité, qui dit qu'elle était pêcheuse de requins avant, qu'elle a renoncé parce qu'elle a fait un rêve dans lequel les requins lui demandaient d'arrêter, qui dit qu'elle est religieuse, qui se déguise en religieuse. Mais non, finalement, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Puis il y a cet autre personnage qui arrive ensuite. Et donc, on est vraiment dans quelque chose d'à la fois très joyeux et un peu inquiétant.
Oui, tout à fait. Les gras, a priori, c'est quelque chose... Enfin, c'est très joyeux. Il y a une forme d'intensité, d'énergie vitale qui est très, très puissante. Et en même temps, moi je l'ai tout de suite ressenti quand je l'ai vécu comme un memento mori. Avant même de connaître vraiment l'histoire de la ville, j'ai senti que cette énergie vitale, elle venait aussi comme une puissance contre des choses plus morbides. Et en l'occurrence, l'histoire des gras est très liée à l'histoire des marins morts en mer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais cette origine quand même dans cette cité ouvrière de marins est quand même présente. Et donc, et puis bon, il se trouve que moi j'ai un imaginaire peut-être un petit peu traversé par des fantômes. Voilà, je vois de la hantise un petit peu partout peut-être. Et en tout cas, oui, c'est vrai que il y a à la fois la dimension très drôle et la dimension d'étrangeté qui peut basculer vers une forme de d'inquiétante étrangeté, mais j'espère que les puissances vitales l'emportent sur la mélancolie.
Absolument, on est envoûté par le documentaire et le fait d'avoir choisi aussi de ne pas mettre de voix off, de pas nous accompagner forcément en nous racontant ce qui se passe, mais simplement parfois de faire intervenir des dialogues entre les personnes que vous filmez et puis les sons, le bruit des colliers que met la petite fille, etc. Tout ça aussi contribue à l'ambiance du film.
Tout à fait, c'est vraiment, moi je travaille vraiment, enfin le cinéma c'est vraiment un territoire dans lequel je veux plonger le spectateur, donc j'essaie de travailler en immersion, enfin vraiment que plonger, et donc le son a une très grande importance dans le film, comme il est assez silencieux, il y a des dialogues qui jouent sur l'étrangeté, l'ambiguïté, mais c'est aussi, je voulais faire entendre aussi ce territoire qui est lié à la mer, voilà, et donc faire entendre la ville et ses multiples couches.
Et on l'entend parfaitement et on est embarqué par cet univers. Safia Benaïm, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir donné envie d'aller à ce festival et de découvrir votre film documentaire. Merci Christophe Postic. On peut vous retrouver donc à l'USAS pour la 37e édition des États généraux du film documentaire 17 au 23 août 2025. On se quitte en écoutant un enregistrement réalisé par Delphine Keravec d'une autre petite fille, Nina Lefebvre, qui chante à Douarnenez.
À la première plonge aden du haut du mêle rocher, un plonge boueleux, moi j'ai fait mon ventre discorigné. Je suis étalée, nager à la grève. Je suis étalée, partie prendre un bain. À la deuxième plonge aden du haut du mêle rocher, un bas de plonge couf, moi j'ai fait mon ventre et tout disboué. À la troisième plonge aden du haut du mêle rocher, un bas de plonge pique, moi j'ai fait mes copains sont scodés gays.